Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir. Soir Info vous accompagne jusqu'à minuit sans aucune interruption. Gabriel Cluzel est parmi nous ce soir, l'actrice en chef de Boulevard Voltaire. Bonsoir cher Gabriel, bonsoir Georges Fenech, plaisir de vous retrouver, notre consultant ancien magistrat, une chaise est vide à votre droite, mais ça ne devrait pas durer puisqu'Amaury Bucco va nous rejoindre. Philippe Guibert est là, lui, bonsoir, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Bonsoir cher Philippe, bravo pour la cravate. Bonsoir à Karim Abric.
J'essaye de mettre
Non, mais c'est super. C'est
une
très belle tonalité
de,
entre le gris, le bleu, on est parfait. Karima Brick de la rédaction est parmi nous. Bonsoir, cher Karima. Bonsoir à Yohann Uzaï, toujours impeccable. On a beaucoup de choses à voir ensemble ce soir. Je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est mercredi soir, c'est comme ça. Et on va retrouver notre sérieux parce qu'on va parler gros sous ensemble d'abord, puisque des annonces ont été faites ce soir par le Premier ministre. Vous savez que le gouvernement est en quête d'économie après le dérapage, on l'a appris hier, du déficit public à 5,5% du PIB en 2023. Et le gouvernement donc s'attaque au travail avec des arbitrages qui ont été effectués, des annonces sur l'assurance chômage faites ce soir par le Premier ministre. Le chômage, en gros, moins bien indemnisé, moins longtemps, c'est ce qui se présente aux Français. Écoutez le Premier ministre tout à l'heure aux 20h de TF1.
Oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année. Il y a trois grandes familles de paramètres possibles. Vous avez la durée d'indemnisation. Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Dans le deuxième paramètre, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage. Là aussi, on peut imaginer soit de dire qu'il faut travailler plus long, davantage sur les 24 derniers mois, ou alors dire les 6 mois, il s'apprécie sur une durée moins longue qui n'est plus 24 mois. Et le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage. Combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse en fonction du temps que vous passez au chômage pour vous inciter à reprendre un emploi. Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les deux précédentes.
Voilà, une réforme de l'assurance chômage à venir, ça peut paraître un peu pointu pour les Français qui nous regardent, mais c'est déterminant et ça nous concerne tous. C'est pour ça que je voulais inviter à notre conversation Michel Mussolino, bien sûr. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain, spécialiste de l'économie. Merci d'être avec nous pour décrypter ces premières annonces et les conséquences qu'elles peuvent avoir, et surtout sur le bien fondé de cette réforme à venir. Déjà, est-ce que l'État était trop généreux jusqu'à présent et il faut se dire vive la rigueur?
C'est de toute manière l'impératif du moment. On ne peut pas y échapper. Aujourd'hui, M. Attal nous a donné une leçon d'arithmétique très simple. Il y a plus de dépenses que de recettes, donc il faut diminuer les dépenses. Quant aux recettes, il y a une ouverture vers un impôt sur les très, très gros profits, mais la règle reste qu'on n'augmente pas les impôts. Donc ça va être un bel exercice.
Voilà, c'est ce qu'on retient dans un premier temps également. Au-delà de cette indemnisation chômage qui sera réformée, ce qu'on retient, c'est que les classes moyennes seront épargnées. En tout cas, c'est ce qu'a dit le Premier ministre par des hausses d'impôts. On va juste voir et montrer à nos téléspectateurs les trois pistes qui ont été évoquées donc par Gabriel Attal pour réformer cette assurance chômage. Réduire de plusieurs mois la durée d'indemnisation, durcir les conditions pour bénéficier d'une allocation, pardonnez-moi, le temps d'avoir travaillé pour bénéficier du chômage. Et puis la troisième piste envisagée, c'est celle du niveau d'indemnisation du chômage. Ça veut dire qu'on va toucher l'indemnisation notamment des seniors qui peinent plus que les autres à trouver un emploi. Est-ce que globalement, vous trouvez ça juste?
Bah, écoutez, juste non, parce que malheureusement, on s'en prend à la partie la plus faible, la plus fragile de la population française. Celle dont on n'ose pas imaginer une grève. Vous imaginez une grève des chômeurs, ça serait assez original. Mais ça va dans le sens de la règle de l'allègement des dépenses. Et effectivement, ce qu'on peut regretter, c'est que ça manque un peu de, comment dirais-je, de précision. Il faudrait peut-être être un peu plus chirurgical dans l'approche des réductions des dépenses et savoir, par exemple, que ceux qui profitent peut-être de la manière la plus importante du chômage, ce sont souvent des cadres qui profitent du chômage pour avoir une année sabbatique, tout en étant eux sûrs de retrouver un emploi au bout d'un an, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, pour les populations les plus fragiles.
Vous auriez été dans un monde fictif, bien sûr, vous auriez été ce soir le Premier ministre. Qu'auriez-vous annoncé pour réduire le déficit de l'État français ?
Écoutez, je pense que le plus important, ce n'est pas le déficit, ce n'est pas la dette. Le plus important, c'est de savoir où on va. Or, il me semble qu'il y a une question qui n'a même pas été abordée, c'est la question du rôle de l'État dans un pays comme la France qui a dans son ADN un rôle important attribué aux organismes publics, aux structures qui dépendent de plus ou moins de l'État. Ça fait partie de l'ADN du pays, ça fait partie de notre histoire, depuis Louis XIV en passant par Napoléon et bien évidemment De Gaulle, dont tout le monde se réclame, ont voulu faire de l'État français un acteur essentiel de notre économie. Or, il me semble aujourd'hui qu'on s'attaque à l'État de tous les côtés sans jamais se poser la question de ce à quoi il sert réellement. Est-ce qu'il est porteur d'un projet, d'une stratégie ? Malheureusement, dans ce domaine, il n'y a pas de réponse depuis bien longtemps.
Je reviens vers vous dans un instant, si vous le voulez bien, Michel Mussolino. Un tour de table. Et Yoann Uzaï qui voudrait apporter un commentaire.
Oui, parce que je m'étonne d'entendre dire quand même que la dette, ça n'est pas finalement si important que cela. On a une dette qui a atteint 3100 milliards d'euros.
Le remboursement... Dont 900 milliards sur les 7 années d'Emmanuel Macron passé au pouvoir.
Le remboursement des intérêts de la dette, pas de la dette elle-même, le remboursement des intérêts de la dette va bientôt nous coûter 70 milliards d'euros. Donc je ne comprends pas trop que ce monsieur vienne nous dire que ça n'est pas important, parce que, évidemment, ça coûte des sommes folles, et plus nous attendons et plus cette dette progresse, plus elle va nous coûter cher, en intérêts évidemment, et en remboursement. Et l'argent que nous investissons dans le remboursement des intérêts de la dette, c'est autant d'argent qui ne va pas à l'école, qui ne va pas dans les hôpitaux, etc., et qui en aurait pourtant bien besoin.
Michel Mussolino, une réponse ?
Oui, bien évidemment, on fait tout pour dramatiser ce problème de la dette. Je vous signale, non seulement il n'est pas nouveau, mais dans l'histoire, on a tout un tas d'exemples de... vous savez, l'État est souverain. Il se trouve qu'en plus, actuellement, la France, malgré tout, a toujours des gens qui sont disposés à lui prêter de l'argent. Donc il n'y a pas de catastrophe imminente. Il faut arrêter avec cette espèce de catastrophisme permanent. L'important, ce n'est pas la dette. L'important, c'est ce qu'on fait avec cet argent. Et je pense que le vrai problème, il est là.
Je reviens encore une fois vers vous, cher Michel Mussolino. Et on entendra d'ailleurs Gabriel Attal qui parle quand même, qui maintient cet objectif de désendetter la France. Mais je voudrais qu'on s'arrête donc sur ces pistes quand même de données ce soir, parce que c'est ça qui retient notre attention, ces différentes pistes pour réformer l'assurance chômage. On l'a dit avec Michel Mussolino, Gabriel Cluzel, je vais vous entendre tous les trois. Dans un premier temps, c'est en s'en prenant aux plus faibles qu'on récupère l'argent qui manque en France ?
Non, mais là, il y a un tour de passe-passe qui, à mon avis, va être très mal vécu et qui est tout à fait inaudible. Parce que vous imaginez un père de famille qui se serait endetté, qui se laissait aller à s'endetter et qui dira à ses enfants bah, « je vais vous mettre au pain sec et à l'eau hein, et moi, je réfléchis absolument pas à changer mon train de vie, à la gabegie que j'ai laissé s'installer, je ne réfléchis pas non plus à tout l'argent que je donne aux voisins, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet, on en reparlera, je pense. Et c'est proprement insupportable, évidemment. Là, on pointe les chômeurs. Moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui profitent ici et là du système.
A priori, c'est ce quand n'est même pas la majorité, et surtout chez les seniors.
Voilà, et puis c'est quand même des gens qui, pour toucher le chômage, faut avoir travaillé. Hein. Soyons clairs, c'est un peu comme les cotisations retraite. Donc on entend ces pistes-là, on entend toutes sortes de réductions, coups de rabot, les affections, le soin des affections longue durée dans d'autres domaines. Mais à quel moment à quel moment ce gouvernement, et la Cour des comptes a quand même donné des pistes, s'interroge sur ses propres dépenses. C'est quand même incroyable. Je vais vous donner un exemple au moment
sachant
du Covid.
Sachant que les sénateurs et les députés se sont augmentés de plusieurs centaines d'euros ces derniers mois.
On peut donner mille exemples. Mais vous vous souvenez, au moment du Covid, on a parlé de l'ARS. Vous vous souvenez de l'ARS? On a dit que c'était des usines à gaz qui servaient
les agences régionales de santé.
Voilà, les agences régionales. Vous avez entendu le début du commencement de l'ombre d'une réforme?
Non.
Jamais. Et on va commencer par taper sur les chômeurs. Comment voulez-vous que ce soit entendu?
Je voudrais qu'on voit deux réactions politiques avant de poursuivre les commentaires en plateau. Aux antipodes de l'échiquier politique, Marine Le Pen d'abord, puis Manon Aubry, le RN puis LFI donc. La réforme de l'assurance chômage est une escroquerie qui n'a qu'un seul but, faire les poches des Français pour enflouer les comptes de l'État qui sont en déficit à cause de l'impéritie du gouvernement. Le régime est excédentaire, il n'y a aucune nécessité à le réformer, dit Marine Le Pen. Pour Manon Aubry, la députée européenne, donc LFI, les termes sont les mêmes, c'est assez amusant, faire la poche des chômeurs plutôt que des profiteurs. Voilà ce qu'a annoncé Gabriel Attal ce soir avec la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Voilà à quoi mènent les règles budgétaires austéritaires. Le 9 juin, jour des élections européennes, donnons-nous la force de les rejeter. Philippe Guibert, votre sentiment là-dessus?
Mon sentiment, c'est que j'ai regardé les chiffres juste avant l'émission.
Est-ce que c'est la priorité de réformer l'assurance chômage?
Justement. Dans l'État social, qui est celui qui nous coûte le plus cher, qui est plus important en France que chez nos voisins européens avec qui nous sommes en compétition. Les dépenses de chômage, c'est à peu près une quarantaine de milliards d'euros. Les dépenses d'assurance maladie, c'est plus de 200 milliards, 230, je crois.
Par an.
Et les dépenses de retraite, des pensions de retraite, c'est plus de 300 milliards. Et donc, on veut faire porter les économies uniquement sur la dépense la moins importante. Première remarque.
Deuxième remarque. Parce que vous avez peur d'avoir des mouvements sociaux.
Mais bien sûr, vous avez évidemment raison. Et puis surtout, vous avez peur de mouvements électoraux. J'y viens parce que les chômeurs sont la catégorie de la population qui vote le moins. Donc non seulement elle ne fait pas grève puisqu'elle est au chômage, mais en plus c'est ceux qui votent le moins de toutes les catégories.
Fort avec les faibles, faibles avec les forts.
Catégories sociodémographiques, toutes les études le démontrent. Donc on n'a pas de protestation des chômeurs. Deuxième remarque, on a décidé, et le gouvernement a décidé, et personne ne l'a trop contesté là-dessus, d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation, ce qui a été refusé aux salariés en début d'année, et donc d'avoir une revalorisation des retraites qui coûtera en année pleine 14 milliards d'euros. On vient de faire une réforme des retraites qui, à échéance de 10 ans, nous permettra peut-être d'économiser ces 14 milliards d'euros. Il y a quelque chose qui cloche dans le système. On fait porter les économies seulement sur les chômeurs parce que c'est ceux qui vont le moins protester. J'ajoute que la moitié des chômeurs ne touchent pas déjà d'indemnité. Et vous l'avez souligné, pour les seniors en particulier, c'est particulièrement difficile de retrouver du travail. Et il y a eu une réforme de l'assurance chômage il y a moins de 2 ans, où les conditions ont déjà été durcies. Donc tout ça fait un ensemble où finalement on préfère taper sur les chômeurs. Effectivement, je retrouve Marine Le Pen et LFI, ce qui ne m'arrive pas souvent. On préfère taper sur les chômeurs que s'attaquer aux grosses masses de dépenses et celle qui pèse le plus sur nos comptes publics.
Georges, je vais vous entendre tout de suite, je vais juste repasser par Michel Mussolino, parce que je me dis déjà, si on met comme ça le tour de vie sur les chômeurs, il faut rappeler, et notamment encore une fois, je m'intéresse aux seniors, parce que j'ai l'impression que là, c'est sur cette catégorie de la population la plus fragile pour retrouver de l'emploi que l'on tape. Le problème, c'est qu'un emploi, a priori, ça ne tombe pas du ciel, et peut-être que le gouvernement pourrait aussi se regarder en face et nous dire qu'il peut songer à créer de la croissance pour permettre justement à ces chômeurs de retrouver de l'emploi. Est-ce qu'il manque d'autocritique, ce gouvernement également?
Non, d'une certaine manière, la stratégie de Macron depuis le début, ça a été de s'axer sur un objectif principal qui est la réduction du chômage. Et on attendait de cette réduction du chômage, évidemment, une augmentation des recettes et donc une diminution du déficit. Mais ça ne fonctionne pas. J'ajoute une chose qu'on considère généralement comme négative, c'est-à-dire l'inflation. L'inflation a donné aussi un coup de main à l'État pour engranger plus de recettes. Parce que il ne faut pas l'oublier, une des solutions à la dette, et on l'a vu tout au long des années, par exemple 70-80, c'est tout simplement l'inflation, parce que l'inflation érode la dette, elle la diminue. Et donc, malgré ce coup de main du hasard, de l'histoire, le projet n'a pas abouti. Parce qu'effectivement, il y a à côté de l'importance du chômage qui était endémique en France jusqu'à une date récente, il y a des dysfonctionnements, un État qui est probablement plus que trop lourd, il est inefficace. Il a perdu son expertise. On n'a plus de nos fameux ingénieurs qui ont fait la bombe atomique, le TGV, et j'en passe, et des meilleurs. On ne les a plus. Maintenant, les hommes politiques, quand ils ont besoin d'idées, ils vont dans des think tanks qui, bien évidemment, remplacent une intelligence publique qu'on a perdue.
En quelques mots, Michel Mussolino, je vais reprendre les propos incisifs de Nicolas Dupont-Aignan hier pour qualifier le gouvernement, et notamment M. Macron. Il a dit que les Mozarts de la finance n'étaient plus que les tocards de la finance. Est-ce que vous reprendriez ça à votre compte ?
Non, absolument pas. J'ai trop de respect pour Mozart pour oser une quelconque comparaison de ce genre. Vous savez, Mozart, s'il a laissé son nom dans l'histoire de la musique, c'est parce qu'il avait une qualité extraordinaire. Il avait une imagination sans bornes. Il avait une inventivité. C'est exactement ce qui manque à nos hommes politiques.
Voilà. Bon, ben, c'est compris. Georges Fenech, un mot ?
Oui, moi.
La France est à un stade aujourd'hui où elle peut mourir de ses aides sociales si la situation n'évolue pas. Il faut de toute façon agir.
Les aides sociales, c'est une chose. Moi, je n'aime pas cette histoire de réduire encore les allocations chômage. Qu'est-ce qu'on attend pour faire une véritable réforme de l'État ? Vous savez que dans notre administration, organisation, nous avons les mairies, les intercommunalités, les départements, les métropoles, les régions, il n'y a pas au moins une strate de trop là-dedans. Sous les mandats de M. Macron, je crois que la fonction publique a encore augmenté ses effectifs. Nous en sommes pratiquement, je crois, à 6 millions de fonctionnaires. En Allemagne, il y a moins d'un million de fonctionnaires que nous. Et pourtant, les services publics marchent au moins aussi bien que les nôtres, n'est-ce pas ? On a, je crois, un taux de 56% du PIB de fonction publique, du fonctionnement de l'État. Voyez-vous, alors que la moyenne européenne est à 48%.
Mais c'est le fil conducteur de notre discussion.
Je crois que les vraies économies à faire, c'est une réforme structurelle du fonctionnement de l'État.
Il faut du courage pour faire ça, Georges.
Mais le courage, il en faut là. Alors réduire, c'est vrai que les chômeurs, ils vont pas défiler dans la rue, donc c'est plus facile, et ça ne réglera pas fondamentalement le problème.
Un dernier extrait, Gabriel Attal, je vous le disais, qui a maintenu tout à l'heure aux 20h de TF1 cet objectif de désendetter la France sous les 3%.
Non seulement on a dit qu'on n'augmenterait pas les impôts, mais je rappelle qu'on en a même baissé certains. On a supprimé la taxe d'habitation, supprimé la redevance télé que les Français payaient. Nous gardons l'objectif de passer sous les 3% de déficit en 2027. Mais je pense que ce qui est important pour les Français, c'est surtout de leur dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de ce chiffre de 3%? Parce que quand vous êtes en dessous de 3%, ça veut dire que vous commencez à rembourser votre dette. Donc moi, le sujet, c'est de désendetter la France. Parce qu'un pays qui est surendetté, ça n'est pas un pays libre.
La question, c'est comment on fait, Yohann Uzaï ?
Mais je trouve cette phrase absolument extraordinaire. Notre objectif est de désendetter la phrase.
La France.
Cette phrase est prononcée par le Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui a créé en 7 ans 900 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Comment voulez-vous que ce même président soit crédible quand son Premier ministre vient nous dire « nous voulons désendetter la France » Ça n'est évidemment pas audible et ça n'est évidemment pas crédible.
Monsieur Mussolino, une réaction ? Et carrément ensuite, pardon.
Je voulais juste vous rappeler un détail assez amusant. À propos de ce que disait Georges Fenech, vous savez, au 19e siècle, quand le Japon s'est lancé dans son développement, il a pris exemple sur des modèles occidentaux. Ils se sont dit, bon, nous commençons, on va prendre ce qui se fait de meilleur en Occident. Alors, ils ont choisi comme modèle industriel l'Allemagne, comme modèle militaire la Grande-Bretagne, et la France, ils l'ont choisi comme modèle pour son administration. Je vous laisse mesurer la distance qui nous sépare de cette période-là.
En effet, tout est dit. Karima, un dernier mot.
Ce que je trouve un peu troublant dans l'interview de M. Attal, en fait, c'est qu'on nous parle en ce moment, de ces derniers jours, de la dette de la France, de 3 000 milliards de dollars, de ce déficit de 5,5 d'euros, merci, oui. d'euros. Et donc, on nous donne ces chiffres qui peuvent être effectivement vertigineux. Et on dirait aujourd'hui, ce qui ressort, une sorte de mesure phare, ça serait de finalement de s'attaquer à l'assurance chômage, donc aux personnes les plus vulnérables. Alors c'est ça le plan de match.
Parce que je le gouvernement veut remettre les Français au travail.
Oui, mais oui, mais vous comprenez, je pense
qu'il y ait de la croissance. Comme
et dans ce contexte quand même qui est particulier, il faut quand même rappeler que en France, c'est le pays champion, si vous voulez, des prélèvements pour les impôts. Champion donc les Français, quand même, il y a ça aussi, c'est de se dire bon, on verse énormément pour toutes sortes de services. Oui, on est fiers de pouvoir avoir un filet de sécurité sociale, mais plus on paye, et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de Français qui disent nos services maintenant, il y en a de moins en moins. On voit qu'il y a des déserts médicaux, on voit que ça ne suffit pas, par exemple, pour la lutte contre la drogue, pour la lutte contre l'insécurité. Donc, tout ça mis ensemble, ça met une très forte pression et on aimerait peut-être un peu plus un plan de match. Est-ce qu'on ouvre un petit peu les portes, les fenêtres et on se dit, est-ce que c'est des taxations de super profit? Est-ce que c'est une meilleure gestion, effectivement?
On essaie de
dégraisser l'État, comme on dit, dégraisser l'État. Donc, il y a tout ça. C'est-à-dire que ça prend quand même des mesures un petit peu plus fortes plutôt que de pointer du doigt les plus vulnérables.
C'est ça. Je rêve ou quoi, pardon?
Il a parlé de la redevance télé, là, qu'il a supprimée.
Vous dites ?
Il a parlé de la redevance télé qu'il a supprimée, mais on ne peut pas sans arrêt nous faire cette entourloupe quand même.
C'est-à-dire de la remettre ?
Non, c'est pas du tout. Il a dit qu'ils avaient supprimé la redevance télé, mais oui, en réalité, elle n'a pas été supprimée. Elle continue sous un autre nom d'être payée, puisque la supprimer aurait voulu dire qu'on supprime son affectation. Il y a toujours une télé publique dans ce pays, nous sommes d'accord.
Oui, elle n'est plus financée par une redevance
télé. Oui, mais c'est toujours le Français qui l'a financée, juste un artifice comptable. Il y a des Français qui paient et qui paient la télévision.
En tout cas, si on prend un tout petit peu de recul, Philippe, et vraiment on va conclure parce qu'on va parler également de ce proviseur du lycée Maurice Ravel qui a été reçu ces dernières heures à Matignon et cette situation est absolument intolérable. Mais si on prend un petit peu de recul, on se dit qu'on a procrastiné sur des mesures essentielles pendant des années, pour ne pas dire des décennies. Ça aurait dû être mis en place depuis longtemps et on se retrouve avec cette dette abyssale, ce défi quasi record et des futures générations qui se disent mais dans quel état vous allez nous laisser ce pays ?
Non, je voulais juste rebondir sur l'idée de dégraisser l'État. L'administration. Je voudrais juste faire remarquer, moi ce sont des années que j'ai vécues en étant souvent justement en poste au sein de l'État, que du gouvernement Fillon après la crise financière, toute le quinquennat Hollande et une bonne partie du premier quinquennat Macron, on a cessé de diminuer le nombre de fonctionnaires d'État. C'est tellement vrai, d'ailleurs, que dans certains domaines, il a fallu en recruter à nouveau. Je pense aux policiers, je pense aux magistrats et auxiliaires de justice, et parfois dans d'autres domaines. Donc, ne nous entretenons pas l'illusion. Il y a un problème de la fonction publique locale, j'en suis d'accord, mais n'entretenons pas l'illusion que le nombre de fonctionnaires au sein de l'État pourrait diminuer largement.
Oui, mais je rappelle justement que dans le projet de François Fillon, le projet présidentiel, il y avait la réduction de 500 000 fonctionnaires.
Oui, mais c'est complètement déraisonnable. Pardonne-moi, Georges. Hein. C'est complètement déraisonnable.
Pourquoi on a 6 millions alors que l'Allemagne en a 1 million de moins ?
Tellement d'administrations qui ne servent à rien.
Mais c'est arrêtez avec cette démagogie de dire que les administrations.
On ne peut rien dire, donc on ne parle pas des super profits. Alors
moi, je vous donne mon expérience.
Excusez-moi. C'est une évidence.
Je ne vous dis pas qu'on ne parle pas du millefeuille administratif. Je vous dis juste, je vous donne une expérience vécue pendant de longues années où j'ai passé mon temps et tous mes collègues directeurs de services, on faisait la même chose, à diminuer les emplois au sein de l'État. On supprimait les ETP, les équivalents temps plein. Donc, le nombre d'ETP au sein de l'administration, des administrations d'État, a beaucoup diminué. Et je redis, c'est très bien de dire moins 500 000 fonctionnaires. Mmh. Et pendant les années Sarkozy, on a même supprimé des postes de policiers qu'on a été obligé de recréer après. Bon. Donc arrêtons cette démagogie.
Vous savez très bien qu'il y a fonction publique et fonction publique.
Il n'y a pas fonction publique.
Quand vous êtes dans les administrations. Et quand vous êtes employé au ministère de la Culture, ce n'est pas tout à fait le même genre de boulot.
C'est parfaitement différent pour les militants.
C'est la cacophonie.
Non,
on n'est pas dans le débat.
Non.
Cette et là, question, donc, elle n'est pas. Faut pas bouger.
Rassurez-vous, on ne touchera pas.
Non, on ne touchera pas l'administration. Le sujet, c'est l'État social. On tapera sur les faibles, sur les chômeurs, voilà, sur les seniors qui galèrent pour trouver un emploi.
Et si je peux me permettre.
Hors du circuit à partir de 50-55 ans, mais voilà.
Et on ne tapera pas sur les retraités qui font les élections.
Voilà. Évidemment. Et voilà, tout est dit. Merci, Michel Mussolino, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes écrivain, spécialiste d'économie. Vous êtes le bienvenu. C'était précieux de vous entendre. Merci pour la pédagogie. Gabriel Attal, qui recevait donc cet après-midi à Matignon le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, menacé de mort, vous le savez, sur Internet après cette fameuse altercation avec une élève fin février à qui il demandait de retirer son voile. Un mois après les faits intervenus le 28 février, le proviseur a donc quitté ses fonctions. On l'apprenait hier pour des raisons, je cite, de sécurité, selon le message envoyé aux enseignants, élèves et parents du lycée. Gabriel Attal, donc, aux 20h de TF1 ce soir. Il est revenu également sur cette terrible affaire et dit, nous informe que l'État va porter plainte contre la jeune fille qui s'était plainte du proviseur.
Il a demandé à une jeune femme d'appliquer la loi, c'est-à-dire de retirer son voile dans l'établissement scolaire. Cette jeune femme l'a refusé. Et pire encore, elle a cherché à l'intimider en l'accusant de l'avoir molestée ou de violence. J'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires. Je rappelle que cet entrisme, que ces coups de boutoir, ont fait récemment deux victimes dans la famille de l'éducation nationale, Dominique Bernard et Samuel Paty.
Regardez cette déclaration également, avant qu'on en discute, de cette fameuse jeune fille, d'ailleurs, dont la plainte a été, classée sans suite aujourd'hui. C'était mieux qu'il parte s'il ne se sentait pas en sécurité. Moi, je suis passée à autre chose. Elle admet, du bout des lèvres, dans cet entretien que les confrères d'RTL ont pu recueillir, qu'elle regrette un petit peu ce qui s'est passé, mais c'est vraiment du bout des lèvres. Quel symbole envoyer, Gabriel, peut-être pour commencer, quel symbole envoyer avec le départ de ce proviseur de l'établissement scolaire Maurice Ravel?
Donc en fait, c'est pas l'élève qui a été viré, c'est le proviseur qui est parti.
Elle est partie de l'établissement, mais parce qu'elle...
De sa propre initiative. Et donc le proviseur, lui, a été obligé de partir. Mais c'est terrible parce que ça s'inscrit dans un mouvement général dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que vous avez les professeurs, mais vous avez des quartiers que vous cherchez à fuir, les délinquants compris le pouvoir et les dealers et donc c'est les braves gens qui partent dans les lycées. Maintenant c'est les proviseurs qui s'en vont pour préserver leur sécurité, mais l'État est gravement responsable. Il y a une mise en échec de l'État qui est dramatique. Alors évidemment, en toile de fond, il y a l'affaire Samuel Paty, ça on s'en doute, mais il y a aussi...
Parce que le scénario est assez similaire, évidemment.
Le scénario est évidemment...
Sans l'issue tragique.
Tout à fait similaire, mais il y a cette impuissance qui est visiblement à répondre à ces coups de boutoir. Moi, je vais vous dire, le simple fait de parler d'atteinte à la laïcité, pour moi, c'est déjà un rideau de fumée. Parce que c'est pas, encore une fois, des bouddhistes qui sont venus embêter ce proviseur. On n'ose même pas nommer les choses. On n'ose même pas les nommer. Alors, comment voulez-vous qu'on le nomme?
Il les nomme clairement. C'est 48 dernières heures, Gabriel Attal, si je puis dire, a pris le taureau par les cornes et a appelé un chat un chat.
Ah oui, mais ça, on me l'a fait 20 fois, le coup de Gabriel.
C'est vrai que les discours, on en a un petit peu l'habitude, à l'image de Nicole Belloubet. Ouais. Écoutez, Nicole Belloubet qui était présente également, la ministre de l'Éducation nationale à Matignon, pour recevoir ce proviseur aujourd'hui. Écoutez-la.
Sur la question du proviseur du lycée Maurice Ravel, juste un mot pour dire qu'il n'a pas démissionné. Il est en retrait et il doit prendre sa retraite. Il est en retrait, il doit prendre sa retraite au mois de juin ou de juillet. Et il est actuellement placé en position d'activité où il est rémunéré en ayant une autorisation spéciale d'absence. Et donc, il n'a pas démissionné, il est en autorisation.
Ah bah s'il est en retraite, tout va bien alors.
Ça c'est vraiment, je crois qu'il y a une maladresse en disant cela. Autrement dit, mais non, en fait, il n'a pas démissionné, oui. Il allait prendre certes. Parce que ça bien. N'enlève en rien la gravité de ce qui s'est passé. Vous comprenez? Moi, je tiens à saluer par ailleurs la réaction de Gabriel Attal. Oui. Il l'avait fait pour l'Abeya.
Pourquoi c'est aujourd'hui que l'État porte plainte? Pourquoi pas au début de l'affaire?
Mais parce qu'aujourd'hui, le parquet a classé sans suite.
Et alors?
Le fait
il y a une conséquence. Il y a, un lien de cause à effet. Vous ne pouviez pas porter plainte contre la jeune fille, bien qu'elle ait une plainte en cours.
Bien sûr que déposer une plainte en dénonciation calomnieuse, il faut que la justice ait classé l'affaire.
D'accord. Donc c'est ça qui justifie le fait que la plainte soit déposée aujourd'hui.
Voilà.
Ok.
Mais bon, c'est un problème qui est général dans tous les lycées aujourd'hui. Attention.
Mais après, l'État pourrait porter plainte aussi pour contre toutes les personnes, qui ont harcelé cette professeure. Et ça, je pense que c'est un travail qu'il faudra faire parce que finalement, cette jeune fille, elle est en partie responsable de ce qui s'est passé à ce professeur, mais elle n'est pas la seule. Derrière, il y a une meute.
Et je pense qu'elle savait que l'État allait peut-être être assez intransigeant avec elle, et c'est pour ça qu'elle répond et qu'elle s'excuse à demi-mot chez nos confrères de RTL. Oui, Johan et Philippe Guibert.
Ce que tout cela montre en réalité, c'est que la peur est en train de gagner du terrain dans ce pays. La peur liée à l'islamisme, évidemment. C'est vrai vis-à-vis de ce proviseur qui est obligé de démissionner précisément parce qu'il craint pour sa vie. Il a peur, effectivement, que ce qui s'est passé avec Samuel Paty se répète.
Et c'est bien légitime.
Mais c'est là l'une des premières victoires de ces terroristes ou des islamistes. C'est que la peur est en train de s'installer progressivement dans le pays et nous commençons même à changer notre mode de vie. Et c'est cela qui doit également nous inquiéter et qui montre que l'islamisme est en train de gagner du terrain.
Quel renoncement ? Quel message vous envoyez aux autres proviseurs de ce pays, Philippe Guibert ?
Un message qui est terrible. Un message de faiblesse, forcément. Parce que, certes, il n'a pas démissionné, mais enfin, il a préféré avancer de 8 mois ou de 6 mois son départ en retraite, parce que sans doute il n'en pouvait plus, et qu'il n'en pouvait plus, sans doute, d'être dans une situation où il craignait pour sa sécurité. C'est ce qu'il dit dans son mail. Je voulais souligner, parce que vous avez dit que la jeune fille en question s'était plus ou moins excusée à demi-mot. Je voudrais souligner que cette jeune fille en question, qui est en BTS, je crois.
C'est ça, ouais.
Qui n'ont pas une gamine de 14-15 ans.
Non, elle a une petite vingtaine d'années, j'imagine.
Elle est majeure et vaccinée, si j'ose dire. A été se confier dans une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux à l'association qui a remplacé le CCIF, qui a été dissous par Gérald Darmanin, mais qui s'est recréé quasiment à l'identique en Belgique. Et donc, elle est allée donner une interview à cette association.
On est en plein dedans. On est en plein
frérisme. À Bruxelles. Cette association, tout le monde le sait, c'est un fourné des frères musulmans.
Bien sûr.
Et donc, c'est le cœur du système qui teste de façon permanente l'école de la République, qui teste de façon permanente la loi de 2004 dont on a fêté, c'est une drôle de façon de le célébrer, les 20 années d'application. Et donc, il faut bien comprendre à quoi on a affaire. On n'a pas affaire à une brave jeune fille qui a fait un petit peu de provocation. C'était quelque chose de calculé, de politiquement calculé, pour créer un incident. Voilà. Avec à la clé quand même des gens qui derrière... Alors, j'ai lu qu'il y avait une des personnes qui était poursuivie dans les personnes qui ont menacé le proviseur.
Il y a 6 ans, je crois.
Mais qu'on en soit en France à une situation où un proviseur qui applique la loi est menacé de mort... est effectivement un message terrible.
Et ce qui va être terrible à entendre, je vous coupe, Philippe, parce qu'il va être 23h, on va faire la petite pause JT pour une minute et continuer la discussion. On va inviter à la conversation d'ailleurs Patrice Romain, qui est un ancien principal de collège, qui aura, j'en suis sûr, beaucoup de choses à nous dire. Et ce qui sera passionnant à entendre, ce sont les réactions prises par nos journalistes ce matin devant le lycée Maurice Ravel. Et c'est très mitigé. Et c'est très inquiétant d'entendre les réactions des élèves qui sont très, très mitigées. Et beaucoup d'entre eux disent « ce proviseur n'avait rien à faire ici. Cette jeune fille est dans son bon droit. Il l'a molestée, il l'a agressée. Quand bien même personne n'a de preuve, il y a quelque chose qui infuse. En fait, la rumeur infuse et cette idéologie, on le ressent vraiment à travers leur discours, prend forme et se matérialise dans leurs paroles. Maureen Vidal, il est 23h pile, on se retrouve tout de suite.
Revoir le système des allègements de cotisations pour inciter à augmenter les bas salaires, une idée du Premier ministre. Gabriel Attal a déclaré avoir confié une mission à deux économistes qui feront des propositions aux employeurs au mois de juin. Alors que le déficit public de la France a atteint 5,5% du PIB en 2023, le Premier ministre Gabriel Attal a affirmé qu'il conservait l'objectif de passer sous les 3% en 2027, un but que l'agence de notation Moody's juge improbable. La commission des finances du Sénat a annoncé aujourd'hui le lancement d'une mission parlementaire sur ce sujet. Enfin, une vingtaine d'établissements scolaires de nouveau menacés d'attentats à Paris, dans les 13e, 15e et 19e arrondissements notamment. Une procédure de signalement a été mise en place pour signaler chaque incident. La police est intervenue pour lever les doutes sur ces situations.
voudrais qu'on entende cet autre. Merci beaucoup, Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes. Je voudrais qu'on entende cet autre extrait de la ministre de l'Éducation nationale qui nous dit mais le pas de vague chez nous, c'est terminé.
Je viens à l'instant de recevoir le proviseur du lycée Maurice Ravel, où s'était déroulé, avec le Premier ministre, où s'était déroulé un refus d'ôter le voile par une élève de BTS, alors même qu'elle était dans l'enceinte du lycée. Donc j'étais allée, avec l'ensemble des services académiques, réaffirmer, bien entendu, le caractère tout à fait essentiel du respect de la laïcité. C'est le fondement de la République, c'est le fondement de notre école, c'est notre socle commun. Et nous devons évidemment absolument faire respecter ce principe-là. Je le dis clairement ici, le pas de vague, c'est terminé. Nous ne voulons plus de ça dans l'éducation nationale.
Bonsoir Patrice Robin, merci de vous joindre à la conversation. Je rappelle que vous êtes ancien principal de collège, auteur de Omerta dans l'éducation nationale aux éditions du Cherche Midi. Je rebondis sur ce qu'on vient d'entendre de la part de Nicole Belloubel. Pas de vague, c'est terminé, mais depuis quand? Parce que là, en fait, c'est juste le scénario de Samuel Paty qui s'est quasiment répété au lycée Maurice Ravel.
Voilà. Alors déjà, je suis content que si le pas de vague est terminé, ça veut dire qu'il y avait du pas de vague.
Certes.
Voilà. C'est uniquement de la com. Hein. Si vous voulez, aucun chef d'établissement, vu la pression que nous avons, aucun chef d'établissement n'agit ainsi sans avoir eu des dizaines et des dizaines de signes avant-coureurs et de conflits avec un élève. Donc, le problème, c'est que si ce chef d'établissement n'a pas signalé tout de suite le problème du port du voile, c'est parce qu'il avait la pression de l'administration. L'administration, à chaque fois, dit « non, non, c'est pas grave, tout va bien ». Donc, évidemment, on en arrive, l'élève qui provoque de plus en plus, jusqu'à cette extrémité. Mais vous savez, après l'assassinat de Samuel Paty, j'ai bien dit que ça se renouvellerait. Et là, je vous le dis très clairement, ce genre de choses se renouvellera.
Est-ce que vous dites ce que je me suis dit également ces dernières heures, c'est que l'éducation nationale, en apprenant alors on va pas dire démission, puisqu'apparemment ce n'en est pas une, mais bon, en apprenant le départ, on va dire, de ce monsieur, de ce proviseur, s'est dit, en fait, c'est la meilleure nouvelle qui soit, c'est la meilleure nouvelle possible, puisque ça nous fait un problème en moins. Tout le monde dit la République ne recule devant rien, et personne n'a protégé ce proviseur. Est-ce que vous vous êtes dit la même chose ?
Bien sûr. Effectivement, là, c'est une sacrée épine du pied, au moins pour tous les dirigeants. Vous savez, le système est incroyablement. Le problème est incroyablement difficile à résoudre. Tant que les mentalités ne changeront pas profondément, on n'arrivera à rien. Moi, durant toute ma carrière, à chaque fois, je répète, à chaque fois que j'ai signalé un problème de laïcité dans mon établissement, à chaque fois, ma hiérarchie m'a donné tort. À chaque fois, elle a dit que ce n'était pas important, qu'il fallait laisser tomber. Oui, c'est vrai, selon la loi, vous avez raison, mais ceci, cela. C'est systématique.
Patrice
Évidemment,
Romain.
On en arrive à de telles extrémités.
Depuis combien de temps vous n'êtes plus en activité, environ?
Ça fait 3 ans.
Est-ce que alors c'est assez récent et du coup je me permets cette question. Est-ce que vous avez ressenti au cours de votre carrière cette pression religieuse islamiste de plus en plus forte à laquelle finalement nous n'apportons aucune réponse et cette stratégie victimaire d'ailleurs cette affaire de cette jeune fille voilée, c'est une stratégie victimaire mais qui en soi est ressentie par le monde éducatif par une forme d'offensive.
Bien sûr. Donc oui, moi je l'ai profondément ressenti. Vous savez, j'ai été menacé de mort également. J'en ai parlé à ma direction académique. On m'a dit que ce n'était que des paroles et qu'il ne fallait pas y prêter attention. Voilà comme les chefs d'établissement sont soutenus par leur hiérarchie. Donc évidemment, la tentation est grande soit de mettre un mouchoir sur ses convictions, soit effectivement, comme l'a fait le collègue, de démissionner. Parce que Mme Belloubet peut dire ce qu'elle veut, le collègue est parti à la retraite parce qu'il ne supportait plus. Et il a bien raison, après 45 ans passés au service des enfants, de vouloir jouir d'une retraite paisible.
Encore un petit mot avec vous, et puis je ferai un tour de table, mais vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce thème, si vous le voulez bien. Je voudrais que vous lisiez avec moi ce témoignage anonyme qui a été recueilli également ces dernières heures d'un professeur du lycée Maurice Ravel. Il parle, il ou elle d'ailleurs, je n'en sais rien, parle de cette affaire de voile. Donc c'est un sujet chaud entre nous, entre professeurs. Dès que ça touche la laïcité, c'est un incident récurrent, même en sortie scolaire. Elles estiment, en parlant de ces jeunes filles voilées, que nous ne sommes plus dans le cadre du lycée. On assiste à des séances de rhabillage devant l'établissement. Elles
elles sont soutenues par des élèves et ça c'est très important, et une partie des enseignants. Est-ce que là encore, vous retrouvez ce que vous avez vécu ?
Absolument. Je vais même vous dire quelque chose. Il y a quelques années, moi j'ai des parents d'élèves qui ont demandé à ce qu'il y ait une salle de prière dans mon collège pendant le Ramadan, chose que j'ai refusée évidemment. Eh bien, devinez la profession d'un de ses parents maintenant. Elle est personnelle de direction dans l'éducation nationale. Ça me semble un petit peu compliqué pour défendre la laïcité ensuite. Hein. Donc, bien évidemment que l'entrisme religieux dans l'éducation nationale se fait au niveau des élèves, mais également au niveau des professeurs, oui.
Je vois pas d'autre mot que capitulation de nos institutions face à un islam politique qui dresse des élèves contre les profs, contre les chefs d'établissement.
Moi, je lis votre bandeau. Mm-hmm. Le pas de vague, c'est terminé. Mais il ne s'agit pas de vague, il s'agit d'un tsunami aujourd'hui.
C'est vrai.
Et le rapport Aubin, il date de 2004. Vous savez, l'inspecteur d'éducation nationale qui parlait de cette islamisation au sein des lycées. 2004, 20 ans.
Il a fini dans un tiroir, hein, 20 ans, le rapport.
Il n'a jamais été mis en lumière par aucun gouvernement, à part la loi sur le voile de 2004. Et je rappelle aussi que l'affaire de Creil, vous vous souvenez, ces deux jeunes filles musulmanes qui était rentré voilé dans un lycée, ça remonte à 1989. Donc on a laissé prospérer cette gangrène, si vous voulez, au sein de l'établissement de la République laïque, qui n'aurait jamais dû accepter ce genre de choses. Donc ce pas de vague, c'est terminé. D'abord, ça veut bien dire qu'effectivement...
Qu'il n'y a eu pas de vague.
Il y avait des vagues, mais ces vagues, je dis, c'est un tsunami aujourd'hui, et on paye les conséquences d'une inaction pendant au moins 20 ans.
Je voudrais qu'on entende, je vous le disais avant le journal, avant de reprendre ce thème, ces élèves qui sont mitigés. C'est vraiment étonnant de les entendre. Écoutez-les. Donc des élèves du lycée Maurice Ravel, interrogés par nos équipes ce matin.
Des menaces de mort, il n'aurait jamais dû en recevoir. Donc pour moi, c'est inadmissible.
La fille s'est sentie heurtée, elle a fait recours à la justice comme tous les Français dans ce monde. Elle a le droit de se sentir heurtée et humiliée. Les menaces de mort, elles ne sont pas du tout venues de cette fille ni de sa famille. Et je trouve ça hyper grave d'instrumentaliser les gens comme ça. Elles sont venues de gens comme partout, la désinformation. Ça peut être n'importe qui. Ça se trouve, c'est son voisin qui était énervé contre lui et qui en a profité.
Faut pas menacer de mort quelqu'un pour si peu. S'il a démissionné, c'est qu'il soit peut-être en danger ou pas, je sais pas.
Nous, on trouve ça bien qu'il ait démissionné parce que c'est pas mon proviseur.
Moi, ça me fait rien. Hein. Dans tous les cas, s'il voulait partir, il avait qu'à partir.
Ouais. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? C'est vraiment c'est ce qu'on entend de la part de ces jeunes. Alors, je dis que c'est mitigé parce que tous n'ont pas ce discours, et on a entendu notamment cette jeune fille au début, mais c'est vraiment un signe de l'avancée des arguments sournois islamistes au sein de la jeunesse.
Je ne crois pas que ce soit des arguments islamistes, peut-être dans une partie. Vous regardez toutes les études d'opinion sur la génération 18-25 ans, voire 25-30 ans. La vision multiculturelle à l'anglo-saxonne est majoritaire dans les jeunes.
Dites-le nous, alors qu'on change de système. Alors devenons l'Angleterre.
Je vous dis juste, je fais ce constat. Mm-hmm. Quand on regarde les études d'opinion, et ça fait quand même pas mal d'années, et donc la réaction spontanée de ces jeunes, c'est de réagir du point de vue de la liberté individuelle. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la culture laïque, mm-hmm. mais on ne leur a pas transmise.
Ils ont perdu la culture française tout court.
Nous sommes fautifs. C'est-à-dire une tradition, pardon, je voudrais juste terminer.
Allez-y.
Une tradition.
Karima et Gabriel reprendront.
Qui est celle, en fait, qu'est-ce que c'est la laïcité au-delà des aspects juridiques ? C'est une certaine discrétion religieuse. C'est-à-dire qu'on sépare la vie sociale et la vie publique de la vie religieuse qui est familiale, qui est personnelle. Et on considère que les croyances sont hyper, et les pratiques sont même hyper et sont respectés par la République, mais qu'on ne les affiche pas au travail, à l'école, dans tous les lieux.
Vous faites la définition de la laïcité à la française. Ces jeunes.
Cette culture-là n'a pas été transmise et aujourd'hui elle est percutée par une génération.
C'est la faute à qui alors ?
Où c'est la faute à notre absence de conscience de ce qui jouait dans la société française et notre absence de conscience que la laïcité à la française était plutôt émancipatrice et qu'elle a été beaucoup considérée comme oppressive.
En fait, la France...
Ça a été vrai, je termine juste d'un
Allez-y,
mot.
Allez-y, Philippe.
Ça a été vrai à gauche qui a critiqué parfois une laïcité trop dure. Ça a été vrai à droite aussi où on a considéré que la laïcité était répressive. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy qui parlait de laïcité positive. Et donc, on n'a pas su transmettre gauche et droite.
Mais là encore, par électoralisme. Hein, de...
par électoralisme et par évolution de l'idéologie des cultures politiques en France.
Et on se retrouve à un stade où la France, le modèle occidental en général, n'évoque plus rien à une grande partie de la jeunesse.
À part Karim la liberté Abrik, individuelle.
Oui. Karim Abrik, Gabriel Cluzel, Yohann Uzaï. Et puis on repassera évidemment vers vous, Patrice Romain.
Il faut quand même se dire comment on en arrive au fait que les jeunes pensent que la liberté individuelle se manifeste aussi par la démonstration avec des signes religieux ostentatoires. On a parlé du modèle multiculturaliste qui est présent effectivement, vous l'avez au Canada, en Grande-Bretagne, mais il faut voir aussi qui pousse à cette idéologie, qui pousse aussi les différents pays à adopter ces fameuses lois. C'est qu'il faut penser aussi que ce sont souvent, j'allais dire, les versions les plus, peut-être pas radicales, mais disons les plus rigoristes aussi. Hein, ce sont souvent des associations militantes qui vont pousser pour avoir justement la possibilité, par exemple, pour des signes ostentatoires ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas non plus neutre. Et ce sont, et si on pense bon, à différentes religions, mais si on pense, par exemple, pour les musulmans, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les musulmans qui portent des signes religieux. Et dans certains cas, bien, c'est ça, on impose une certaine vision des religions. Alors moi, je trouve qu'il faut faire attention parce que cette vision multiculturaliste, elle est souvent aussi prônée. En fait, il y a certains mouvements plus rigoristes qui vont réussir à faire imposer aussi leur vision. Et donc, la laïcité à la française, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat qui est difficile parce que, oui, c'est une vision aussi de la liberté. Et ça a été difficile parce qu'il y a toutes sortes d'offensives. On parle d'une nouvelle génération, mais il y a aussi maintenant, par le biais des réseaux sociaux, d'Internet, il y a aussi une idéologie TikTok, aussi qui infuse. Oui. Non, mais... Et cette idée de confrontation aussi. Donc, c'est difficile dans le contexte actuel.
C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive à une heure, à un stade où chacun choisit son camp. Et c'est ça qui est dangereux.
Non, mais je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter de se voiler la face. On n'est plus en démocratie, on est en trouillocratie. Tout le monde a la trouille. On va le dire clairement. La trouille de ce qui est en train de se passer et de la peur d'être arrivé à un moment de non-retour. Parce que le vrai sujet de fond, c'est le nombre. C'est-à-dire que s'il y avait une jeune fille en France qui souhaitait se voiler, elle ne résisterait pas toute seule. Hein. Là, il y a évidemment une question de nombre.
C'est vrai.
Et la trouille de la situation actuelle et la trouille de l'inventaire de ce qui s'est passé. Parce que on a été soumis à une autocensure les phénomènes migratoires dans notre pays qui ont apporté une population qui aujourd'hui pour partie se fédère autour de cet islamisme.
Mais ça,
il faut arrêter
Gabriel,
de se voiler la face.
Pour beaucoup, ces jeunes viennent de familles dont les premières générations qui étaient en France ne posaient pas ce problème-là.
Non mais Julien, c'est encore pire votre constat. C'est-à-dire, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que si les gens étaient arrivés l'avant-veille, on pourrait se dire ils n'ont pas eu le temps d'être assimilés. C'est normal, il faut un peu de temps. Là, ils arrivent avec leurs mœurs, leur culture, ça va prendre du temps. Là, au bout de 2-3 générations, on se rend compte que non seulement c'est pas mieux, mais c'est pire. Donc il y a un vrai sujet à se poser sur notre capacité à assimiler. Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau de saturation.
Et donc la trouillocratie... On n'a pas été capable de faire croire au récit national.
Non, mais par contre, il y a un moment, il y a une question...
Mais c'est vrai. Vous avez raison, Gabriel, mais je pense qu'il y a une part de vrai dans ce que je dis aussi.
Oui, il y a une part de vrai dans ce que vous dites. On ne peut pas se faire aimer quand on ne s'aime pas soi-même. Nous sommes bien d'accord. Mais il y a une question tout simplement de nombre. À un moment, quand les gens qui sont plus nombreux que ceux qui accueillent, et l'assimilation, elle se fait à l'envers. Et c'est ce qui se passe dans certains quartiers, si je vous l'assure.
Gabriel,
et dans certains lycées.
Yohann Uzaï.
Non, mais si la laïcité est menacée aujourd'hui, ou en tout cas si les jeunes n'adhèrent plus à la laïcité qui est pourtant un fondement et un ciment de la République, c'est aussi parce que les islamistes, les frères musulmans, les salafistes ont réussi à faire croire à une partie de la jeunesse, notamment embrigadée sur les réseaux sociaux qui jouent un rôle majeur dans tout cela, que la laïcité à la française, que la laïcité en France était un moyen d'opprimer et de montrer du doigt, de stigmatiser les musulmans. Ils sont arrivés à leur faire croire cela. La laïcité serait en fait islamophobe. C'est cela que disent les frères musulmans sur les réseaux sociaux et auprès de cette jeunesse.
Et quand on voit la proportion des jeunes musulmans qui pensent que la loi de 2004 va leur en compte, c'est vrai qu'on a raté quelque
chose.
Une
partie de cette jeunesse est désormais imprégnée de tout cela. Donc les discours que nous avons entendus à la sortie de ce lycée ne sont finalement pas si surprenant que cela.
Ils peuvent choquer, mais ils ne sont pas surprenants.
Absolument.
En effet. Georges Fenech, avant de retourner voir Patrice Romain.
Ce que je voudrais ajouter, c'est que cette question-là de la laïcité ne se réduit pas uniquement à la question des signes ostentatoires religieux. C'est que derrière ces signes-là, il y a un projet
politique.
Absolument, bien sûr.
Il y a
c'est l'essentiel,
un islamisme politique qui porte une atteinte majeure aux valeurs de notre République, notamment l'égalité homme-femme. Ce n'est pas uniquement une question de tissu, c'est derrière tout un projet qui vraiment agresse notre République.
Patrice Romain, encore une intervention si vous le voulez bien. L'islamisme, vous diriez, teste l'école pour savoir à quel point elle peut être imprégnée, et on a l'impression que jusqu'ici, ça fonctionne plutôt bien.
Écoutez, vous savez, moi, si j'ai intitulé mon livre « Omerta dans l'éducation nationale », c'est parce que, justement, tous les hauts fonctionnaires taisent tous les incidents. Mon livre recueille tous les témoignages, un tas de témoignages de collègues. Vous n'imaginez pas ce qui se passe au quotidien. Là, il y a une affaire qui sort de temps en temps, mais c'est au quotidien, que ce soit pour la laïcité ou pour d'autres sujets. Vous savez, lorsque j'ai présenté mon manuscrit à l'éditeur, il était soufflé. Et plusieurs fois, il m'a dit « Mais... vous êtes sûr, on peut mettre ça ?» Vous voyez, les gens ne s'imaginent pas ce qui se passe dans les coulisses de l'éducation nationale. Et parce que, justement, toute la hiérarchie, enfin, la plupart des gens qui composent la hiérarchie de cette grande et noble institution, la plupart de ces gens ne pensent qu'à leur propre intérêt. Leurs enfants sont dans des bons établissements, hein, y a aucun souci pour ça. Ils ont le côté pile, on veut l'égalité, et le côté face, on met sa progéniture dans les établissements d'élite. Donc tous ces gens qui, depuis des années, des décennies, refusent de prendre leurs responsabilités, refusent de voir la vérité en face, portent une très, 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 très lourde responsabilité.
Un dernier mot, Patrice Romain. La semaine dernière, les magistrats marseillais rappelaient que la bataille était perdue contre les narcotrafiquants. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les enseignants qui sont en train de perdre la bataille contre les islamistes ?
Je crois qu'on peut faire le parallèle. Alors, rien n'est jamais perdu, hein. Il faut rester optimiste. Mais il faut avant tout changer les mentalités. À partir du moment où vous avez un chef d'établissement qui signale un fait, eh bien, il faut faire attention. Il ne faut pas dire... Lorsque la ministre qui dit « c'est fini le pas de vague », ça me fait doucement rire. Ça fait combien de ministres qui disent que c'est terminé, cette fois-ci, c'est sûr, on va dire la vérité. C'est faux, tout est sous le tapis. C'est l'omerta dans l'éducation nationale, voilà.
Et c'est la peur qui règne. Merci beaucoup, Patrice Romain, d'avoir été avec nous. Je rappelle que donc, vous êtes ancien principal de collège et auteur de ce bouquin à lire, donc Omerta, dans l'éducation nationale, aux éditions du Cherche Midi. Très vite pour conclure, Philippe.
Non, juste perdre la bataille, n'exagérons pas. On a interdit la baïa, Gabriel Attal l'a interdit, ouais. Et on a gagné cette bataille-là. Donc ne soyons pas quand même... Il y a une bataille, il y a toujours des batailles à mener.
On va rester sur ça et essayer d'y croire tous ensemble, cher Philippe Guibert. Je me tourne vers Amaury Bucaud pour une nouvelle affaire qui risque là encore d'en choquer, d'en surprendre plus d'un. Amaury, ce soir, vous allez nous parler d'une affaire qui combine deux phénomènes qui rongent là encore notre société. D'une part, les violences en milieu scolaire, le harcèlement que l'on connaît bien et sur lequel, là encore, le gouvernement fait beaucoup, mais devrait peut-être faire encore plus. Et puis, l'autre, ce sont les agressions au couteau qui se multiplient. Une histoire hallucinante, ça se passe à Audincourt, dans le Doubs. Et ça commence, dites-nous tout, avec une agression à la sortie d'une école dans le cadre donc du harcèlement d'une jeune fille.
Oui, c'est ça. C'est l'agression d'une collégienne de 13 ans qui s'appelle Soane. C'est une camarade de sa classe qui l'attend à la sortie du collège, le collège des Hautes-Vignes à Audincourt, le 6 mars dernier. L'agression a d'ailleurs été filmée. Je vous propose d'abord peut-être de regarder les images de cette agression.
Oui. Allez, bâtard !
Mais même flouté, c'est insupportable à regarder. Amaury.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, le lendemain de cette agression, Karim, qui est le père de Soane, a porté plainte, évidemment, pour l'agression de sa fille. Cette plainte a d'ailleurs été prise assez au sérieux par l'école, puisque cette fille, l'agresseuse, a rapidement été convoquée, passée en conseil de discipline et exclue temporairement de l'établissement. Ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait dû, mais non, hélas, vous allez voir, ça continue. L'adolescente a continué à harceler Sohan en l'attendant régulièrement à la sortie de l'école, à tel point, si vous voulez, que son père...
Qu'elle était mise en retrait, hein, la harceleuse, les choses étaient faites.
Voilà, elle a prévenu ses cousines, apparemment, et elle l'attendait à la sortie de l'école. Le père de Sohan a donc été obligé de se rendre plusieurs fois à l'école pour aller chercher sa fille, pour lui permettre de partir en sécurité. Il a effectué donc plusieurs compléments de plainte pour signaler à la police ses problèmes. Et notamment le dernier complément de plainte le 20 mars dernier. Et ce qui s'est passé, vous allez voir, c'est que c'est allé encore beaucoup plus loin. Ce jour-là, le 20 mars dernier, donc c'était mercredi, la harceleuse s'est rendue devant le domicile de Sohan avec des amis. Ils étaient plusieurs. Ils ont commencé. Il faut savoir que Sohan habite au rez-de-chaussée, à jeter des cailloux sur les fenêtres, à prendre en photo, si vous voulez, à la provoquer jusque chez elle. Et donc son père, eh bien, a décidé à ce moment-là de sortir de chez lui, d'aller leur parler. Il est donc sorti de chez lui avec sa fille. Les agresseuses ont pris la fuite à ce moment-là. Elles se sont dirigées à une centaine de mètres vers des commerces. Il y a une boulangerie, une poste, mais aussi un point de deal dans ce quartier, qui est un quartier prioritaire. Et lorsqu'il est arrivé à ce moment-là, près de ces commerces, il a vu les jeunes filles se diriger vers le point de deal. Et à ce moment-là, deux hommes sont arrivés vers Karim, le père de Sohan. L'un lui a donné d'abord un coup de sacoche. Puis il a eu un coup de barre de fer. Et enfin, un deuxième homme est arrivé. Il lui a donné un coup de couteau dans le dos. Exactement. Donc Karim, à ce moment-là, a perdu énormément de sang. Il a été heureusement secouru par...
Sous les yeux de sa fille.
Tout ça s'est passé sous les yeux de sa fille. Il a heureusement été secouru par les pharmaciens. Alors, son pronostic vital n'a pas été engagé. Mais aujourd'hui, il est toujours hospitalisé. Il a plusieurs opérations. Et je vous propose justement d'écouter son témoignage.
Je ne m'attendais vraiment pas à une chose comme ça, surtout pour une banale histoire de collégien. Je ne m'attendais pas à prendre un coup de couteau, un coup de barre devant ma fille. Ça, c'est le pire. Ma fille va être traumatisée à vie. Voilà, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi ? C'est ça ma première question qui me vient à l'esprit.
Et on a bien compris avec cette image que ce monsieur a témoigné depuis son lit d'hôpital, où il est en train de recouvrer ses moyens, en tout cas on lui souhaite. Est-ce qu'il y a déjà des suites judiciaires ? Est-ce que les deux auteurs dont vous me parlez ont été retrouvés, arrêtés, interpellés ?
Alors j'ai pu m'entretenir avec le procureur de la République de Montbéliard, Paul-Édouard Laloy, qui prend cette affaire très au sérieux. Ce qui m'a indiqué, c'est que l'identification était en cours. On ne peut pas en dire tellement plus, si vous voulez, pour ne pas empêcher les actions de police à venir. Il y a deux procédures distinctes, en fait, qui ont été ouvertes. L'une pour les violences envers la jeune Sohan et l'autre pour les violences envers son père. Une chose est sûre, en tous les cas, la famille de Sohan qui habite dans ce quartier a peur et n'a qu'une envie, c'est de déménager. Je vous propose justement d'écouter la mère de Sohan qui a bien voulu aussi témoigner.
C'est ça que moi je veux que la justice soit faite pour que mes enfants ils peuvent reprendre leur vie normale. Qu'on pense qu'on va repartir sur Nancy, oui. Mais j'attends qu'ils sortent de l'hôpital puis on part direct. On ne peut pas rester là. Moi ici quand je passe dans le quartier, il y avait des messieurs que je ne connaissais pas. Votre mari n'a pas intérêt de porter plainte parce qu'on va vous tuer, tout ça. On est menacés, quoi.
Juste un dernier mot, Amaury, pour bien comprendre. Est-ce qu'il est avéré que cette jeune fille, lorsqu'elle s'est mise à courir avec ses cousines ou ses amis pour aller vers ce point de deal, est-ce qu'il est avéré qu'elle initiait une forme de guet-apens contre ce monsieur, ou il y a une forme de fuite un peu hasardeuse et elle s'est retrouvée vers ces jeunes-là? Est-ce qu'on sait s'il y a une forme de guet-apens pour aller vers ces jeunes qui le poignardent?
Alors, juridiquement, ce n'est pas avéré.
Une préméditation.
C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a deux procédures distinctes qui, pour l'instant, ne sont pas jointes. Mais quand on parle au père qui a vu la scène, lui, il me dit elles sont allées non pas se réfugier dans les commerces, la pharmacie ou la poste, mais elles sont allées vers ces personnes qui étaient près du point de deal. Et c'est deux personnes qui sont venues me voir, qui se sont emmêlées, alors que je ne leur avais rien demandé.
Georges Fenech, oui, spirale de l'ultra-violence, encore une fois. Et terrible inversion des valeurs avec cette maman qui dit, nous, on pense maintenant à s'en aller. Donc les victimes,
c'est pareil,
on est toujours un peu ou prou dans le même scénario. Georges.
Les violences dont parle Amaury, c'est une tentative d'homicide volontaire.
Alors, ça,
regardez, je ne sais pas ce que fera le procureur qui a pris cette affaire très à cœur, mais si la personne qui a planté un couteau dans le dos l'individu, c'est quoi ?
Alors justement,
c'est des violences ?
Non, mais j'ai posé
une tentative d'homicide volontaire.
Et bien sûr.
J'ai posé cette question justement au procureur parce que la qualification des faits, ce n'est pas tentative d'homicide, c'est violence
volontaire avec deux
agressions. Donc la main de la justice tremble encore une fois.
Non, pas du tout. Non, ce que m'a expliqué.
Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de tentative d'homicide?
C'est pour vrai pour toutes les affaires. C'est qu'en fonction de la zone qui est touchée, de la manière dont la personne a porté le coup de couteau, on ne dit pas systématiquement. Par exemple, si on vous donne un coup de couteau dans la jambe,
c'est vraiment.
Non, mais je vous explique comment ça se passe juridiquement.
Bien sûr.
Justement, une question que j'avais évidemment. Et si on vous donne un coup de couteau dans la jambe, ce n'est pas tentative d'homicide. Et là, comme c'est
dans le bas du dos, il y a des artères qui peuvent être touchées, on peut en mourir.
Mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est l'intention, si vous voulez. Donc là, comme c'était le bas du dos et que ça n'a pas perforé d'organe directement la lame, on a considéré que ce n'était pas une tentative d'homicide.
Par la chance qu'a eue la victime. Vous comprenez bien.
Donc si jamais ce monsieur était mort, la qualification, c'est homicide involontaire.
Non, ça serait homicide volontaire.
Oui, mais s'il n'a pas touché d'organe.
Vous voyez la limite.
Il a un couteau, donc il ne faut pas être involontaire. Mais...
Non, il ne faut pas minimiser ce genre d'agression. Ce sont des agressions de nature criminelle, point barre.
Gabriel, violence aujourd'hui par des gens extrêmement jeunes, parce qu'on imagine que ces auteurs ne sont pas des...
Ils ont le même âge à peu près.
Voilà. On est sur des adolescents ou très très jeunes adultes. Il y a un sentiment d'impuissance face à cette hyper-violence. Et si ces jeunes, encore une fois, si cette jeune fille, cette gamine se permet de harceler dans le temps aussi longuement et d'en venir jusqu'à créer ce guet-apens plusieurs jours après avoir été elle-même virée de ce collège, c'est qu'il y a un sentiment d'impunité totale et qu'on peut tout se permettre en fait...
Je vous fais remarquer qu'il y a quelques mois, c'était un peu comme le pas de vague. On nous avait dit le harcèlement, ça, on va prendre ça très à cœur et c'est terminé. Vraiment, là, la plus grande fermeté, etc., etc. Et on se retrouve toujours au même point. Rien n'a changé. Donc c'est la personne harcelée et ses parents qui s'en vont. Donc d'une certaine façon, les harceleurs ont gagné. C'est un peu comme dans le lycée parce que leur vie est devenue proprement insupportable. Et une fois de plus, on va se heurter à notre logiciel qui ne fonctionne plus parce que pour des collégiennes animées d'une telle violence, mais quelle sera la sanction? Je me demande bien. Il faudra de toute façon qu'elles soient scolarisées d'une façon ou d'une autre, puisqu'elles ont l'âge d'être scolarisées. Et puis le droit aujourd'hui pour les mineurs fait qu'il ne se passera sans doute pas grand-chose. Je ne sais pas pour ceux qui ont poignardé, c'est autre chose, mais pour elles, en réalité,
est-ce qu'elle est mise en cause, cette jeune fille, là encore
Alors, dans les deux procédures, il y en a une justement pour les violences sur la jeune fille, et là, déjà, plusieurs mineurs ont été entendus, mais là, c'est côté justice pour enfants que ça se passe, et bien évidemment qu'elle est mise en cause. Et je voulais juste finir, moi, ce que je trouve terrible dans cette histoire, c'est que si vous voulez, quand vous êtes une fille de 13 ans, mais c'est vrai aussi pour un garçon, que vous êtes violentée comme ça à la sortie de l'école, quand votre père vient vous chercher, quand votre père est là, vous vous sentez en sécurité. Votre père, c'est un peu le roc. Et je pense que quand ces jeunes filles sont venues devant leur domicile, jusqu'à la provoquer chez elle et que son père est sorti, elle s'est dit « Mon père est là, il va régler la situation ». Et finalement, son père se fait poignarder et se vide de son sang devant elle. Et ça, je trouve ça terrible.
Et le degré de violence, moi, je trouve qu'on est vraiment dans un degré, c'est absolument barbare. Il y a une jouissance en plus de filmer la scène et de ne rien faire. Exactement. On voit que, oui, il y a ce contexte scolaire, mais ça va au-delà de tout ça. Donc, il y a vraiment deux formes de responsabilité.
On connaît l'origine d'altercation des jeunes filles?
Non, c'est des histoires de collégiennes.
C'est une gamine de 13 ans qui se faisait harceler et la harceleuse n'a pas supporté qu'il y ait des mesures contre elle.
L'état de l'école aujourd'hui, c'est des menaces d'islamistes. Le lendemain, c'est un proviseur qui se fait menacer de mort à cause du voile islamique. Maintenant, c'est du harcèlement. Et je vous parle même pas du niveau qui s'est effondré. Visiblement, ça intéresse plus personne. C'est plus le sujet à l'école. Là, on est dans la survie. Non, mais il y a un moment, il faut quand même se rendre compte de la situation dans laquelle nous vivons et dans laquelle vivent nos enfants. C'est normal qu'il y ait une fuite vers le privé.
Et encore, il faut frapper fort. Je pense à cette histoire de ce gamin de 16 ans qui avait manqué de tuer un policier, qui a pris 35 heures de travaux d'intérêt général. Il y a un moment, si vous ne faites pas peur à ces jeunes dans leur parcours de violence et que vous ne sanctionnez pas un bon coup, c'est quasiment d'une assistance à personne en danger. C'est des destins qui sont foutus.
Concernant le harcèlement,
les auteurs.
Si, les auteurs ont été arrêtés.
Alors, si vous voulez.
Pardon, Johan, j'arrête.
C'est en cours.
Non, mais c'est-à-dire que quand on dit que c'est en cours, c'est qu'on ne veut pas dire si c'est le cas ou pas pour pas que les personnes prennent non plus.
Johan, très vite on conclut et puis on fait un point avec Maureen sur l'actualité.
Quand même, je crois que vis-à-vis du harcèlement, il y a eu une prise de conscience. Je crois que les actions de Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation nationale ont eu une incidence sur ce qui se passe en ce moment dans les établissements scolaires. Non mais d'accord, évidemment, mais
ils sont contents qu'il y ait
le harcèlement,
il y a eu plus qu'une prise de conscience.
Comment ?
Il y a eu des dispositions, il y a eu des mesures.
Il y a eu des mesures qui ont été prises.
Il y a eu au moins un numéro vert, je pense.
Non,
il y a eu de véritables.
Pardon, mais moi ce serait ma
caricaturer tout le temps.
Non, mais la situation est objectivement odieuse. Pardon.
Bien sûr, mais on est d'accord.
Moi, je veux bien qu'on soit dans ce discours lénifiant. Bah non, pardon.
Il n'y a pas eu, c'est pas une question de numéro vert. Il y a eu une mesure essentielle qui a été prise, c'est que dorénavant, c'est le harceleur qui doit quitter l'établissement.
Ah bah, elle a été exclue quand même.
Elle a été exclue.
Mais de facto, que se passe-t-il? C'est quand même la famille agressée qui s'en
elle
va.
Elle passe ses après-midi devant le lycée à attendre la jeune fille pour lui mettre encore plus la pression.
Mais ça, c'est la police qui
doit... C'est bien qu'elle soit exclue, mais il y a un moment, il y a une partie du travail qui n'est pas faite. Sinon, on n'en serait pas arrivé là avec ce super poignardé sous les yeux de sa fille. Il est très tard. Il est 23h31.
Ça existe depuis la nuit des temps, le harcèlement à l'école, si vous voulez. Je n'ai pas l'impression que ce soit un mal d'aujourd'hui, contrairement à bien d'autres mots qui frappent la société. Mais le harcèlement, ça existe.
Les agressions
toujours.
Au couteau est un mal d'aujourd'hui. Oui. Bon, c'est un mal d'aujourd'hui. Oui. 23h31, Maureen Vidal, merci à Maureen pour cette histoire là encore qui, je l'espère, va faire du bruit au-delà de ce studio parce que c'est assez symptomatique de notre société et c'est affligeant. Maureen Vidal, l'essentiel, on se retrouve en moins d'une minute.
Le Premier ministre annonce que l'État va porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre l'élève qui avait accusé à tort le proviseur du lycée Maurice Ravel. Elle avait assuré avoir été violentée après son refus d'enlever son voile. Gabriel Attal a reçu le proviseur cet après-midi. Il évoque sa sécurité pour justifier son départ. Gabriel Attal envisage de réduire la durée d'indemnisation de l'assurance chômage. Le Premier ministre s'est exprimé chez nos confrères de TF1 ce soir. Le chef du gouvernement a demandé à sa ministre du Travail, Catherine Vautrin, de préparer de nouvelles négociations. Il souhaite que la durée d'indemnisation ne descende pas en dessous de 12 mois. Enfin, Emmanuel Macron, en déplacement au Brésil, a déclaré que l'accord commercial négocié entre l'Union européenne et le Mercosur était très mauvais et a appelé à en construire un nouveau. Le chef de l'État a ajouté qu'il fallait bâtir ce nouvel accord responsable d'un point de vue de développement, de climat et de biodiversité.
Merci Maureen Vidal. La France va-t-elle se transformer en nouveau cartel de Medellin? C'est le ministre de l'économie, si vous étiez avec nous hier, Bruno Le Maire, qui l'a affirmé en mettant en garde, comme l'ont fait avec lui les magistrats de Marseille, sur une bataille qu'il semble de plus en plus improbable à remporter contre les narcotrafiquants. À Nice, par exemple, les règlements de compte à l'arme lourde entre dealers sont devenus quasi quotidiens. Explication.
Cette place des Amaryllis, dans le quartier des Moulins à Nice, est devenu le théâtre d'affrontements sur fond de trafic de stupéfiants. Des scènes d'une violence inouïe.
Sur les affrontements, les personnes résidentes de la cité excédées par la situation liée au trafic de stupéfiants, mais également se sont joints à ce groupe de résidents des dealers d'autres points qui se sont livrés à un lynchage sur de jeunes individus venus pour la majeure partie du Maghreb en situation irrégulière.
Lors de ces affrontements, 4 personnes ont été retrouvées blessées, dont un grave. Un policier a également été légèrement touché à la jambe par un projectile.
Une quarantaine d'individus, tous vêtus de noir, encapuchés, encagoulés ou avec des cache-coups, ont débarqué avec des couteaux, des marteaux.
Des violences qui pourraient être la conséquence des heurts qui ont éclaté lundi soir. La CRS 81 a rejoint les effectifs de police déjà déployés sur place.
Il y a certains résidents du quartier des Moulins qui ont voulu, entre guillemets, chasser ou régler leurs problèmes avec des mineurs isolés, des mineurs non accompagnés. Et là encore, les policiers sont intervenus. Et là encore, bien sûr, les situations se retournent contre nous.
Hier, le préfet des Alpes-Maritimes s'est rendu sur place pour délivrer un message de fermeté. Il promet de poursuivre les interpellations et les saisies de drogue. En un an, plus de 30 kilos ont déjà été interceptés dans le quartier des Moulins.
Georges Fenech, là encore, constat terrible, clairement, autour du trafic de drogue dans notre pays, un système mafieux de plus en plus présent. L'argent de la drogue est tel que notre démocratie est en danger.
Oui, surtout si on donne crédit, et je donne crédit à ce qu'a dit Bruno Le Maire aujourd'hui.
Hier, oui.
Hein, hier, en faisant le lien entre la drogue, narcotrafiquants, et le terrorisme, à ma connaissance, pour moi, ce n'était pas un scoop ni une nouveauté. Non. Ça fait au moins 10 ans qu'on a été.
Il nous a appris des choses quand même, Bruno Le Maire, hier, notamment que les trafiquants possèdent des sous-marins.
Oui, alors ça, oui.
Alors j'ai... ça m'a.
Oui. Bon, c'est peut-être pas des sous-marins nucléaires non plus, quoi.
Excuse-moi, vous avez un sous-marin, vous il est marrant.
Non, mais c'est peut-être un Nautilus, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, c'est pas des lanceurs d'engins, oui.
C'est un petit.
Ça va. Tout va bien, ils n'ont pas de tête nucléaire.
Non, mais parce que moi, quand je pense à un sous-marin. Je pense à un sous-marin militaire.
Il y a aussi une interview qui.
Ils ont des balises.
du bruit à l'époque de la procureure de Paris, Madame Bécuot, dans Le Monde, qui avait dit effectivement que la France risquait une situation comme les Pays-Bas, qui sont déjà contaminés eux aussi par
la Belgique,
cartels qui, et ça c'est une nouveauté, arrivent à corrompre des fonctionnaires, des douanes.
C'est inéluctable.
Et aller au port du Havre,
Et Dockers, notamment.
Voilà, bien sûr. Dockers, notamment. Donc c'est vraiment une situation nouvelle, on peut dire, et qui ne fait qu'aggraver la situation.
Écoutez, Éric Ciotti, l'ancien maire de Nice.
Il n'a jamais été maire.
Non, député, député des Alpes-Maritimes. Pardonnez-moi, Christian Estrosi, qui est maire de Nice.
Président du département.
Président du département. Voilà pourquoi j'ai fait cette petite méprise. Merci de me
donner. Christian Estrosi a dû avoir un.
Éric Ciotti, qui parle de Marseille et de sa ville de Nice. Écoutez-le.
Christian Estrosi a dû avoir un tremblement.
Ce qui s'est passé à Marseille, c'est une narcocité aujourd'hui. 49 homicides l'année dernière. Ce qui se passe dans ma ville à Nice, où depuis 48 heures, un quartier est à feu et à sang. 40 personnes hier se sont attaquées aux policiers, des règlements de compte à coups de marteau. C'est malheureusement ce que me disait un policier récemment, ce qui guette le pays dans quelques années si on ne met pas un terme à ce fléau qui est à la source de la criminalité, de la violence.
Oui, j'aurais pu dire président des Républicains, ça aurait été plus simple. Écoutez, là encore, François Molin, c'est immense magistrat. Je regarde évidemment Georges, qui a occupé tous les grands postes de la magistrature dans notre pays, qui était lui aussi auditionné au Sénat sur cette commission autour du narcotrafic et qui analyse la situation.
Je pense qu'on est clairement face à un phénomène qu'on n'arrive pas à endiguer et qui grossit. Je crois qu'il y a déjà eu depuis 2017 ou 2018, il y a eu plusieurs plans nationaux de lutte contre le trafic de stupéfiants. Bon. Avec beaucoup de moyens investis, beaucoup d'énergie policière, beaucoup d'énergie judiciaire, beaucoup d'énergie financière. Et effectivement, on voit que le problème ne cesse de s'accentuer. Donc, en réalité, on n'arrive pas à l'endiguer. Le problème grossit dans des proportions telles que le narcotrafic finit par avoir des moyens considérables qui, si on ne l'arrête pas, pourront finir par déstabiliser, j'allais dire, la puissance publique.
La France s'enfonce, Philippe Guibert.
Oui, la France s'enfonce. On a une triste répétition de ce qu'on constate à Marseille et dans plein d'autres villes. Après, je me pose une question.
Oui.
On a affaire à des mafias. On a affaire à des mafias.
À des cartels. Hein.
Qui se tuent entre elles via leurs petites mains et où on commence à avoir pas mal de victimes collatérales, puisque c'est le terme qu'on utilise. Il y a un exemple en Europe de succès contre une mafia. Il n'y en a pas 36. Hein. Il y a le succès de l'État italien et de la justice italienne contre le Cosa Nostra en Sicile.
Ça a coûté des vies à beaucoup de magistrats. Hein,
ça a coûté la vie aux deux magistrats, aux deux procureurs qui ont été victimes d'actes qu'on peut comparer à du terrorisme. Mais ils ont gagné. C'est-à-dire que la mafia Cosa Nostra, où les gens se tuaient dans la rue à Palerme, enfin tout le monde a oublié ça.
Ça n'existe plus du tout en Italie.
Non, je m'arrive régulièrement d'aller à Palerme, ça n'existe plus. Il y a toujours peut-être des activités mafieuses.
Bien sûr.
Mais la dimension criminelle n'a plus rien à voir avec les années 80 et 90, où les gens s'entretuaient dans la rue. Donc on est en train d'arriver.
Qu'est-ce qui a été fait en Italie qui doit être fait ici?
Un parquet spécial.
Il y avait Dalla Chiesa, il y avait le juge Falcone, on se souvient, qui ont été assassinés.
Absolument.
L'un et l'autre. Et ils ont fait surtout un maxi procès avec une nouvelle loi sur les repentis qui était exonérée de peine. Quand ils dénonçaient effectivement des peines atténuées. Alors on a un dispositif, c'était les lois Perben chez nous, qui permet aussi d'amoindrir la peine en cas de révélation des auteurs du trafic. Elle n'est pas, à mon avis, suffisamment appliquée.
Mais ils ont peur aussi, les personnes qui sont interpellées.
Normalement, ils sont entendus anonymement de ce DPV, mais enfin, c'est quand même...
Si vous avez certains...
Sauf que vous êtes interpellés.
Policiers qui, parfois, sont achetés aussi, parce que c'est ce qui a été révélé par les magistrats marseillais. Hein, c'est de la corruption à tous les étages.
Les Américains...
Et notamment dans la police.
Les Américains avaient créé la DEA, Drug Enforcement Administration.
Bel accent.
Je sais pas si j'ai un bon, je crois pas.
Allez-y.
Ils ont déclaré une vraie guerre. Les Italiens, ça vient d'être appelé. Et nous, on a une guerre de retard. Voilà.
Est-ce que tout le monde tire dans le même sens? Ça a commencé évidemment par le garde des Sceaux, parce que vous avez certainement suivi cet échange à distance entre Éric Dupond-Moretti et François Molins. Oui. Alors Éric Dupond-Moretti d'abord qui n'a pas apprécié cette fameuse sortie des magistrats marseillais qui ont dit que la guerre était, la bataille était perdue contre les narcotrafiquants. Il avait réagi le 20 mars dernier en disant « Je pense que l'expression « nous sommes en train de perdre la guerre » n'est pas opportune. » Et je lui ai dit, donc il parlait du procureur de Marseille, « Ce propos est malheureux et moi je ne veux pas de discours de défaitisme. » François Molins a répondu au garde des Sceaux aujourd'hui. Écoutez.
Je pense que ce sont ici et ailleurs des magistrats engagés au quotidien et qui vous ont dit la vérité avec une grande lucidité sur le combat qu'ils mènent au quotidien. Et si vous me permettez de poursuivre cet aparté, je dirais qu'ils me paraissent parfaitement irréprochables, ce qui m'amène à une incompréhension majeure face au comportement du garde des Sceaux à Marseille, face à cette remontée de bretelles, comme certains l'ont nommé, qui me paraît personnellement, moi, aux antipodes de l'office d'un garde des Sceaux qui est censé soutenir la justice, défendre son indépendance. Et je pense qu'il n'est pas convenable d'avoir ce type de comportement qui consiste à reprocher à des magistrats d'avoir dit la vérité devant des émanations de la nation et de la représentation nationale. Et j'aurais rappelé que les magistrats ne sont pas là pour venir au soutien ou à la justification des discours politiques des uns ou des autres, qu'il s'agisse de la majorité ou de l'opposition. Ça n'est pas leur office.
Et pour conclure le feuilleton, Éric Dupond-Moretti a de nouveau répondu à François Molins tout à l'heure face au sénateur.
Les magistrats sont libres, et j'ai d'ailleurs rappelé à mes homologues qu'ils étaient libres de leurs paroles, mais le ministre l'est aussi dans son expression, voyez-vous, parce que j'ai la charge du bon fonctionnement du service public de la justice, je ne retire rien des propos que j'ai tenus. J'ajoute que dès le lendemain, certains sont allés dire que c'était une véritable boucherie. Je ne suis ni boucher, ni charcutier, monsieur le sénateur. J'ai tenu les propos qu'un garde des Sceaux responsable peut tenir. Et enfin, j'ai exprimé, c'est vrai, à la suite des moyens considérables que j'ai envoyés à Marseille. Sachez qu'à Marseille, les renforts que nous avons envoyés correspondent au nombre total de magistrats, de greffiers, de contractuels que contient le tribunal de Rouen. Ça n'est pas rien. Et je vais vous dire, oui, j'ai dit que lorsque l'on exprimait l'idée qu'une guerre était perdue, on la perdait.
Le garde des Sceaux reproche à des magistrats d'avoir dit la vérité sous serment, en fait.
Non, mais moi, je partage entièrement ce qu'a dit François Molins. Et j'ajoute, le fait d'avoir remonté les bretelles des magistrats qui ont dit la vérité sous serment devant une commission d'enquête parlementaire, c'est aussi une atteinte à la séparation des pouvoirs. Absolument. C'est une atteinte à la commission d'enquête parlementaire. Moi, je serais la commission d'enquête parlementaire. Je pense que j'auditionnerais là-dessus le garde des Sceaux.
On n'en finit plus, quoi.
Oui, non, mais attendez, il faut quand même que le Parlement puisse exercer un contrôle sur le gouvernement et nos institutions. C'est ce qu'ils ont fait, c'est son rôle.
Gabriel Cluzel.
Non, mais ce que l'on comprend dans le propos de façon sous-jacente d'Éric Dupond-Moretti, c'est qu'ils sont coupables. Ils sont coupables d'avoir rompu la loi du silence. Ça, c'est tout. Il faut pas en parler. Il y a une omerta sur ces sujets et ils ont dit la vérité et ça, ils n'avaient pas le droit. Alors moi, je veux bien.
Ce qui a déplu à Dupond-Moretti, c'est que pour lui, les magistrats ont fait le jeu du Rassemblement national.
Non, mais c'est ça
qui l'a dérangé.
C'est vrai que ça tombe sous le sens. Non, mais vous vous rendez compte, c'est quand même assez terrible de voir une réaction. Action au plus haut sommet de l'État, ça fait peur. C'est proprement effrayant parce qu'il y a un constat et on voit que rien ne sera fait puisqu'il y a un déni.
Tout petit. Alors,
je ne sais pas si Éric Dupond-Moretti s'est bien rendu compte de ce qu'il a dit. Faire le lit du Rassemblement national quand des magistrats témoignent et disent.
Le Rassemblement national qui est au plus haut dans les sondages encore, hein,
ça voudrait dire que dire la vérité serait servir le. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de la folie politique que ça représente.
Non, mais la majorité, l'exécutif, est dans une folie politique en ce moment.
Mais oui, Georges.
Ah, bien sûr qu'il l'a dit. Ah, mais je ne sors pas ça de mon cerveau fécond. Johan, sur une petite minute, on a le temps ?
Oui, non, mais simplement.
On peut voir d'ailleurs, ça je me permets, puisque j'évoquais ce sondage, on peut voir, on va faire d'une pierre deux coups, voir cette infographie, ce tout dernier sondage qui montre que le Rassemblement national est en tête largement encore des intentions de vote pour les prochaines européennes. Pardon, Johan.
Non. Simplement, je crois qu'Éric Dupond-Moretti il a tenu un discours de politique en réalité. C'est vrai que quand on est un responsable politique, qu'on ne peut pas admettre qu'une guerre soit perdue. Sinon, ce n'est pas de la politique, on fait autre chose. Parce que quand on fait de la politique, précisément, c'est pour changer les choses.
Mais je ne crois pas qu'ils ont parlé de guerre, ils ont parlé de bataille.
Mais c'est une nuance importante. C'est bien là le problème du gouvernement concernant un certain nombre de choses. C'est qu'on a l'impression, concernant le trafic de drogue en l'occurrence, quand il le commente, quand Bruno Le Maire dit « attention, si nous n'agissons pas tout de suite, nous allons perdre la guerre », mais il n'est pas spectateur, il est acteur, Bruno Le Maire. Il n'a pas le droit de dire cela. C'est-à-dire qu'il s'exonère de tout ce qui s'est passé durant les 7 dernières années. Il est membre du gouvernement, il est comptable, comme le président de la République, de la situation actuelle. Or, on a l'impression qu'il regarde ça de loin et qu'il s'exonère de tout. C'est quand même un problème. C'est vrai sur la drogue, c'est vrai sur l'entrisme islamiste, c'est vrai sur beaucoup de choses. Emmanuel Macron, il est là depuis 7 ans, il est comptable, il a un bilan et il ne peut pas regarder cela comme s'il était, encore une fois, un simple spectateur.
On a tout dit ?
Non, il faudrait commenter le sondage.
Non, je vous voulais dire quoi sur le sondage, c'est que vous avez beau dire que vous êtes avec Emmanuel Macron ou avec Vladimir Poutine, ça n'a aucune influence sur les Français. Vous avez beau mettre Madame Hayé en tête de liste, ça n'a aucune conséquence sur le Rassemblement National. Il y a toujours 12 points d'avance et c'est très compliqué pour la France Insoumise.
La France Insoumise va peut-être passer sous le cap.
En effet,
la seule petite évolution, c'est la progression de la liste de Raphaël.
Ah bah ça.
Le reste est stable, hein.
Ça fait plaisir, ça.
Oui, notons quand même que dans les sondages, on parle de la France
Insoumise. Il est passé de 10% à 13%.
Bravo.
C'est bon que des sondages. Allez, c'est bon, on arrête.
On arrête là ?
On ne devrait pas arrêter.
On ne devrait pas, mais malheureusement, il y a des contraintes de temps.
Ça,
vous savez.
Était bien.
Oui, mais il faut payer le salaire de Johan Usa et il faut payer la pub, les amis. Eh oui. Martin Mazur, oui. Coralie Delaplace Le Place et Maxime Ferre ont préparé cette belle émission. Merci à Maury pour toutes ces remarques. Encore une fois ce soir, non, mais surtout nous avoir plus sérieusement rapporté cette affaire qui, je l'espère, fera grand bruit parce que c'est absolument choquant. Merci Karima, Philippe, Georges et Gabriel. Merci donc aux équipes techniques également. L'info se poursuit sur CNews avec l'édition de la nuit. Je vous dis rendez-vous demain. Bonne nuit.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.